Facere, 23 mai 84, Père Philippe, Saint Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Au nom de l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame est très sainte.
Priez-vous. Priez-vous.
Ça va. Si la philosophie de l'art regarde l'homme en tant qu'il produit des œuvres belles, et si notre philosophie regarde avant tout l'homme pour lui-même, pourquoi donc étudions-nous l'homme qui transforme et achève la matière physique au lieu de regarder l'homme qui achève et perfectionne directement l'homme ou le corps de l'homme, par exemple? On regarde les deux. C'est évident. Le travail à la fois fait... Parce que le travail, l'activité du travail est en premier lieu de faire une œuvre. Sauf quand vous faites des haltères. Alors, à ce moment-là, c'est pas pour faire une œuvre, c'est pour vous perfectionner. C'est très très bien, mais en fond, c'est, en premier lieu, c'est une œuvre. Et en travaillant, on se travaille, c'est sûr. Donc les deux sont vrais, mais il faut l'objectivité. Le travail est fait en premier lieu pour une œuvre. Et le travail en second lieu change l'homme. Donc si je regardais le travail en premier lieu par rapport à moi qui me transforme, je suis dans une vision qui n'est pas juste, qui objectivement n'est pas vrai. Vous voyez ? C'est toute la différence avec le point de vue moral. Le point de vue moral vous perfectionne en premier lieu. Ça ne veut pas dire que le point de vue moral, alors, par le fait même, entretient mon égoïsme et mon pharisaïsme. Mais on parle toujours d'un pharisaïsme vertueux, on parle beaucoup moins d'un pharisaïsme artistique. C'est très curieux du reste. Parce que c'est très vrai que par l'activité morale, je me perfectionne et j'acquiers une noblesse. Tandis que par l'activité artistique, je transforme la matière. Et le perfectionnement est second. Vous voyez ? Si l'art, d'autre part, nous fait coopérer à la création de Dieu, un homme a-t-il le droit... Alors, on ne dira pas faire coopérer à la création de Dieu, je précise. On dira coopérer à l'œuvre, c'est-à-dire coopérer à l'imperfection des créatures. Mais pas, on ne coopère pas à la création de Dieu, au sens tout à fait rigoureux. Un homme a-t-il le droit de se présenter laidement sous prétexte de plaire à Dieu ? Je présume que c'est la liturgie, ça, bon. Jusqu'à quel point pouvons-nous glorifier Dieu dans notre corps et esprit de façon belle, en faisant le beau, vous savez, comme le chien qui fait le beau, pas, par exemple, dans la coupe de ses cheveux. Bon, vous avez tous réglé la question. C'est évident que la liturgie demande d'être belle, c'est sûr, c'est preuve de la liturgie. On sait très bien que pour avoir une liturgie très belle, il faut avoir beaucoup de temps. Quand on voit, je voyais l'autre jour notre cher Dominique Levert, il prépare le dialogue des Carmélites, il m'a dit pendant un mois, je tiens ma troupe, pendant deux mois, je tiens ma troupe 8 heures par jour. Alors, pour arriver à un spectacle qui soit correct et qui soit beau, pour pouvoir avoir une liturgie qui soit belle, il faudrait évidemment passer beaucoup de temps. C'est sûr, ça, il faut le reconnaître ça humblement. Et nous ne pouvons pas, parce que Dieu nous demande autre chose. Si nous devions en premier lieu, vous voyez, c'est l'attitude des moines liturgiques. Il faut distinguer les moines liturgiques, les moines contemplatifs et les moines apostoliques. Il faut bien faire la distinction entre les trois. Nous ne sommes pas, premièrement, des moines liturgiques. Si vous étiez entré pour ça, vous dites, vous êtes trompé de porte. Vous apercevriez assez vite. Nous sommes premièrement des moines liturgiques. Il en existe. C'est très beau, c'est très grand, il en existera toujours. Il y a des moines purement contemplatifs, les chartreux, Bethléem. Et puis il y a des moines apostoliques. Oui, il faut respecter les finalités. Ce que Dieu demande, ce que Dieu réclame de nous. Quoi. Et c'est dans cette lumière-là qu'on doit voir tout le reste. C'est dans la finalité qu'on doit tout comprendre. Et donc, mesurer l'harmonie de nos vies, c'est évident que ça implique des éléments de doctrine, des éléments liturgiques, des éléments de charité fraternelle, des éléments de service. L'épluchage des légumes. Il existe dans toute vie monastique. Peut-être moins chez les chartreux, parce qu'ils ont beaucoup de chartreux. Mais à Bethléem, ça existe, parce qu'ils n'ont plus ce que les chartreux avaient. Les chartreux ont des frères qui les aident. Alors c'est magnifique pour la contemplation, c'est magnifique pour les frères qui les aident. Mais c'est beaucoup moins de style de notre époque d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où on voit que la sociologie intervient quand même et modifie certaines choses. On ne peut plus avoir ça aujourd'hui. Et d'une certaine manière, hein, c'est très bien parce que c'est plus évangélique. Ouais, je trouve ça plus beau, c'est plus évangélique. Alors que la pauvreté soit plus présente partout. Alors ça exige de nous un équilibre de vie un peu différent. Mais c'est évident que nous mettons très fort l'accent sur l'aspect doctrinal. Mais il ne faut pas que cet accent sur l'aspect doctrinal fasse que la liturgie soit bâclée, fasse que la vie contemplative n'existe plus. Ah non. C'est une vie contemplative assumant la doctrine et une vie contemplative assumant la doctrine en vue de la vie apostolique. Il y a une double exigence de la doctrine. Exigence de purification personnelle, exigence apostolique. Donc il y a une double exigence de la doctrine. Et puis la vie liturgique, elle a aussi une double exigence. Elle a une exigence de glorifier Dieu, il y a une exigence de témoignage apostolique. Voilà. C'est là toute la difficulté de savoir comment on doit se tenir en face de Dieu avec la coupe des cheveux et je dirais encore beaucoup plus avec la voix, la manière de se tenir, la manière d'être. C'est sûr, on est mobilisé quand on chante l'office. On est mobilisé. On doit avoir une tenue mobilisée par l'Esprit Saint. On est mobilisé. C'est pour ça que normalement, il y a quand même une certaine tenue du cœur. Je me souviens que ce soir, de temps en temps, on luttait contre les pères ou les jeunes pères qui allaient pendant l'office de nuit en chaussons. À 3h du matin, quand il fait froid, on prend des chaussons. Alors, on dit, non, c'est pas une tenue quand même, quoi. C'est... Ou bien ceux qui mettent des par-dessus en quantité dessus, parce qu'ils ont froid. C'est pas une tenue. Et le courage, même si vous avez un peu froid, de vous tenir debout, quoi. Il y a une tenue, si vous voulez. C'est là la coupe de cheveux, vous voyez, c'est ça. C'est la tenue qui doit faire qu'on doit être mobilisé par Dieu pour la glorification de Dieu. C'est la même chose pour le chant. On doit accepter des choses plus simples parce qu'on n'a pas le temps de faire des choses mieux. Vous voyez, c'était ce que dans la règle, dans les constitutions de Saint-Dominique, on mettait, que dans les constitutions de Saint-Dominique, on disait qu'il fallait que la liturgie soit plus simple pour s'adonner plus aux études et à la vie apostolique. Et on comprend très bien, parce que la vie apostolique, la liturgie est ordonnée à la vie contemplative, elle est ordonnée à une vie contemplative d'études, et elle est ordonnée à une vie apostolique. Et c'est en ce sens-là que des moines liturgiques risquent toujours de regarder la vie apostolique en disant « Ah, vous êtes beaucoup moins moine que nous. » Quelle est la définition du moine ? Normalement, quand il y a une vie apostolique, forcément, ça ne peut pas être autrement. La vie régulière emporte un petit coup. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Mais la vie régulière ne définit pas la vie monastique. C'est un aspect tout à fait matériel. La vie monastique, c'est le don de nous-mêmes total à Jésus. C'est ça, la vie monastique. C'est l'esprit de virginité vécu pleinement et totalement. Dans un esprit de pauvreté, dans un esprit d'obéissance. Alors, ça doit prendre une très grande souplesse, et c'est vrai, ça prend une souplesse plus grande. Bon, ceci, c'est pour comprendre, c'est le point de vue de la philosophie. Ah oui, alors ça c'est un problème très, très, très délicat et très, très intéressant, mais je n'ai pas envie de le régler. Quel est le rôle et la place du symbole, de l'allégorie, de la métaphore dans la poésie ? Oui. La poésie est symbolique, et je prends le symbole dans ce qu'il a de plus fondamental. Le symbole, vous savez bien, c'est l'union de l'image et du concept. Si je veux l'analyser dans l'analyse que nous faisons de l'appréhension au point de vue philosophie du vivant. Le concept est présent dans tout symbole. Et il y a toujours une image. Toujours. C'est pour ça que c'est une idée. L'idéa artistique est symbolique. Vous n'avez pas d'idéa artistique sans qu'il y ait un symbole. Et l'idéa fait une petite synthèse entre le concept et l'image. Donc, je crois qu'on peut dire que toute poésie est symbolique. Toute poésie n'est pas allégorique et n'est pas métaphorique. Donc, il y a quelque chose de générique qui est le symbole. Je crois qu'il n'y a pas de pensée poétique sans le symbole. Ça me semble impossible. Quand vous achetez des carottes au marché, vous ne prenez pas un langage symbolique. Parce que la pauvre marchande, qu'est-ce qu'il a ? Il manque quelque chose. Hein. Vous pouvez parler poétiquement des carottes, c'est évident. Mais vous avez un langage utilitaire très précis, très, très, très précis dans l'ordre utilitaire. Vous n'allez pas prendre un langage philosophique, non plus. En demandant, ces carottes, est-ce qu'elles existent ? Est-ce que c'est un mirage ? Est-ce qu'elles existent vraiment ? Non. Tandis que si vous êtes en veine de poésie sur les carottes, vous aurez un langage poétique sur les carottes, ce sera assez particulier. Alors, l'allégorie et la métaphore, c'est un symbolisme beaucoup plus complexe, comme le mythe, c'est beaucoup plus complexe. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus... C'est complexe, l'allégorie. Et la métaphore aussi. La métaphore, c'est l'analogie au niveau symbolique. La métaphore, c'est l'analogie au niveau symbolique. Donc, quand il y a une comparaison. Toute comparaison symbolique implique une métaphore. Et l'allégorie, ça implique quelque chose encore plus. C'est qu'il y a un jeu des deux. Il y a un plan, un autre plan. une intervention constante d'un plan avec un autre plan. Alors ça, c'est l'allégorie. Et le mythe, c'est quand il y a tout un récit dans un point de vue symbolique avec une certaine finalité ou le dévoilement de l'origine pour expliquer. Le mythe explique, tandis que le symbole n'explique pas. Il suggère, très différent. Le symbole comme tel, c'est pas de l'ordre de la signification, c'est pas de l'ordre de la représentation, c'est d'un ordre particulier de suggérer. On ne doit pas dire les choses d'une manière trop explicite. Il n'y aurait plus de symbole. Toujours, et c'est là on voit très bien celui qui... Parce qu'il y a des symboles classiques et des symboles romantiques. Il y a un langage romantique, symbolique, qui est beaucoup plus affectif et plus imaginaire, plus représentatif. Dans le symbolisme classique, il y a quelque chose de beaucoup plus la signification prend plus de place. Alors je crois qu'on pourrait faire des parallélismes comme la métaphore et l'allégorie. Alors, quelle différence y a-t-il entre la création et l'œuvre créatrice de Dieu ? Alors là, on touche des questions fondamentales et énormes. Alors, en deux mots, nous n'avons pas traité cette fois-ci, parce que le cours de philosophie de l'art s'étend sur 2 ans. Alors, il y a une première année où on fait l'analyse, donc là, on empiète sur l'année prochaine, n'est-ce pas ? Ou sur l'année suivante. Ça dépend si on fait encore un cours de philosophie de l'art l'année prochaine. Ça dépend des doctes qui réfléchissent là-dessus. Moi, j'obéis. Alors là-dessus, quelle différence y a-t-il entre la création et l'œuvre créatrice de Dieu ? Entre la création et l'œuvre créatrice de Dieu. L'œuvre créatrice de Dieu, c'est le fruit de la création. La création, c'est l'acte créateur. Pourquoi ne pouvons-nous pas dire que l'artiste achève la création de Dieu ? Parce que personne... Il achève l'œuvre créatrice de Dieu, mais il n'achève pas la création. Parce que la création, du côté de Dieu, c'est un acte parfait. C'est Dieu lui-même. Comment voulez-vous achever Dieu ? La création, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un petit quelque chose qui s'ajoute à Dieu. Et c'est à partir de rien. Donc, on ne peut pas. Tandis, l'œuvre créatrice de Dieu, Dieu a voulu que cette œuvre soit imparfaite. Pour que l'homme l'achève. Dieu a voulu laisser passer devant l'homme comme artiste pour achever son œuvre créatrice. Ça, c'est la délicatesse de Dieu par rapport à son image. Et ça fait partie de l'amour de Dieu par rapport à son image. Vous avez dit au dernier cours que toute œuvre artistique est en vue de la résurrection des corps. Oui, j'ai dit ça, dans une perspective de croyant. Pouvez-vous éclairer ce lien de nécessité, surtout quand l'œuvre d'art veut exprimer une esthétique du lait. Je veux bien, surtout quand on dit, n'est-ce pas, comme Baudelaire, que Satan est ce qu'il y a de plus beau, pas ce qu'il y a de plus beau, mais que la beauté, on verra. On va le voir du côté du beau, vous voyez, vous en faites entrer dans ce que j'avais envie de traiter avec vous. De quelle manière la poésie est-elle, avec la musique, un des arts les plus liés à l'amour ? Ça, c'est très vrai. Poésie et musique sont les arts les plus affectifs, les plus liés à l'amour. Et poésie et musique sont très proches. Mais sont différents. La poésie est plus intellectuelle que la musique. Ça, c'est sûr. La musique, c'est la musique qui est le plus attachée à un aspect affectif. Tandis que la poésie est déjà plus intellectuelle. Elle se sert du langage, qui est une matière intellectuelle. Tandis que le son, la voix, c'est beaucoup plus affectif. De quelle manière ? C'est parce que tous les deux se sont reliés à l'amour. Je chante parce que j'aime. Et je fais de la poésie parce que j'aime. Si vous n'aimez pas, vous n'éprouvez pas le besoin d'écrire. Tandis que dès que vous aimez, si vous avez un peu d'inspiration poétique, vous écrivez en poète. C'est très curieux ça. C'est l'amour qui est le ressort. Alors, l'amour lié à l'imagination, l'amour lié à l'intelligence. Il n'y a pas d'art sans l'intelligence. Hein, ça, c'est ce qu'il faut se dire. Comment l'idéa est cause exemplaire. C'est le principe de l'activité bien, parce qu'elle est principe de l'activité artistique. Oui, l'idéa est une cause exemplaire en ce sens qu'elle dirige et qu'elle oriente mon activité artistique. Elle la mesure d'une certaine manière, comme une cause exemplaire. Bon, je ne dis pas plus. Je vais tout de suite avec vous, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, mais vous voyez, vous pouvez compléter, on a vu quelques aspects des arts principaux. Il y a une réflexion très importante aujourd'hui sur le cinéma. Je ne la fais pas avec vous. Mais ce serait très intéressant. Voir, se demander si le cinéma est un art premier ou un art second. Si le cinéma n'est pas art des arts, c'est une question qu'il faut se poser. Vous voyez, la poésie, la musique, la peinture, la sculpture, l'art dramatique, la danse, l'architecture, sont des arts premiers. Et quand je dis ça, vous voyez, c'est ça que je veux montrer. Hein. C'est que l'activité, c'est l'intelligence pratique, réalisatrice, l'intelligence poétique, elle est toujours enracinée dans le sensible. C'est-à-dire, elle implique toujours nos sensations, elle implique l'imagination, et elle implique la volonté affective, et donc nos passions. Tout art fait appel à la passion, fait appel à la volonté, fait appel à l'imagination, fait appel aux sensations. Autrement dit, ce qui est tout à fait caractéristique à l'art, c'est qu'il saisit l'homme tout entier. Et c'est sa richesse. Et c'est pour ça que l'art nous séduit. Parce qu'il saisit l'homme tout entier. Tandis que quand je fais de la philosophie, l'homme tout entier n'est pas saisi. C'est mon douce. Mon intellect. C'est pareil. Ou l'intellect pratique sur lequel je réfléchis. Je ne suis pas dans l'action. La philosophie est autre chose que l'action politique. C'est le nous. C'est le nous qui me saisit. Alors, le nous implique la volonté, implique un aspect affectif, un amour de la vérité. Donc c'est la vérité qui n'est pas la volonté. C'est cet amour de la vérité qui me pousse toujours à aller plus loin. Tandis qu'au contraire, dans l'art, ce n'est pas l'amour de la vérité qui me pousse. C'est l'amour d'une œuvre qui achève l'œuvre du Créateur. C'est ce que Dante dit d'une façon si belle, hein, quand il dit que l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. Une petite fille de Dieu. Une véritable œuvre d'art est petite fille de Dieu. Et on comprend très bien ce que ça veut dire. C'est l'homme qui coopère avec Dieu, qui coopère et qui achève l'œuvre de la création. Et c'est ça qui pousse l'artiste, consciemment ou inconsciemment. Un artiste, quand c'est artiste, il ne peut pas tolérer l'imparfait, l'artiste. Terrible. Alors, dès qu'il voit quelque chose d'imparfait, immédiatement, il donne un coup de pouce. C'est extraordinaire. Il sent ça. Tandis que chez le philosophe, c'est la vérité qu'il cherche. C'est la vérité. Chez l'ami, c'est l'amour à l'égard de son ami. Alors, l'ami est aimé dans sa totalité, c'est évident. C'est l'amour et l'ami est aimé dans sa totalité. Mais c'est quand même moins, oui,
C'est très vrai que dans l'amour d'amitié, l'homme est pris dans tout ce qu'il est. C'est sûr. Et dans l'œuvre d'art aussi. Mais l'œuvre d'art est dans l'artiste. L'œuvre d'art est plus consciente parce que l'intelligence joue un rôle plus important et plus essentiel dans l'activité artistique que dans l'amour d'amitié. C'est pour ça que j'ai une conscience plus grande que l'homme tout entier œuvre dans l'activité artistique que dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est plus souterrain, c'est plus profond, ça nous prend plus profondément, parce que ça nous prend dans notre cœur, et notre cœur dans ce qui est le plus profond et souterrain, mais c'est moins conscient. Tandis que dans l'œuvre artistique, c'est beaucoup plus conscient. Et c'est ce qui explique la séduction propre de l'art. Il y a une séduction propre de l'art. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces alliances sont différentes. Je crois, quand il s'agit de l'art dans ce qu'il a de plus sur lui-même, donc ce que j'appellerais les arts principaux, primordiaux, si vous voulez, c'est toujours l'alliance de l'intelligence et des sens, et donc de nos sensations. Et de nos sensations dans les sensibles propres. Ce sont les sensibles propres que je mets en pleine lumière. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça qui fait comprendre comment on est en présence d'arts principaux. La poésie, la peinture, la musique, la peinture, la sculpture, l'art dramatique, la danse et l'architecture. Je suis en présence d'art. Je suis en présence de sensations immédiates des sensibles propres. Tandis qu'il me semble, dans le cinéma, il y a un primat des sensibles communs. Très cru. C'est pour ça que la technique va envahir le cinéma d'une façon très étonnante. Et par le fait même, diminue le caractère artistique. Ça. Écoutez les grands artistes, les sculpteurs, les peintres, vous parlez du cinéma, ça vous frappe toujours beaucoup. Évidemment, si vous voyez un cinéaste, il va pousser l'extrême. C'est l'art des arts. Oui, c'est l'art des arts, mais c'est l'art second. Oui. Alors, il n'est plus le cinéma, l'œuvre du cinéma n'est plus petite fille du créateur, il est déjà un peu plus brave. Hein. Parce qu'il est l'art des arts. Le cinéma, le cinéaste, se sert de tous les autres arts. Et par le fait même que c'est les sensibles communs, la technique pourra s'en emparer beaucoup plus. Mais il y aura quelque chose de moins pur. Mais alors, il y aurait quelque chose d'analogue avec le roman. Le roman est quand même quelque chose d'un art qui n'est pas aussi pur que la poésie, ça c'est bien évident, ou que l'art dramatique. Alors, il y a quelque chose d'analogue entre le roman et le cinéma, qui est assez curieux. C'est du reste, on pourra passer de l'un à l'autre, mais le roman est quand même plus que le cinéma, je crois. Il y a quelque chose de plus pur. Alors, c'est intéressant à réfléchir là-dessus. Alors, d'autre part, il est très important de comparer les arts entre eux, de faire le parallélisme entre les arts entre eux et les vertus entre elles. Les vertus sont connexes. C'est très merveilleux, les vertus sont connexes. Si vous acquérez un peu plus de prudence, vous allez acquérir un peu plus d'humilité. C'est plus facile d'acquérir la prudence que l'humilité, donc allons du côté de la prudence. Et puis on va acquérir un peu plus d'humilité, parce que toutes les vertus sont connexes. Si vous vous perfectionnez du côté de la vertu de justice, immédiatement vous perfectionnez du côté de l'humilité. Toutes les vertus sont connexes. C'est beau du reste de voir ça. Il y a des connexions dans les vertus. Comme il y a une connexion profonde dans les sept dons du Saint-Esprit. Alors vous avez, si vous mettez ça, les sept dons du Saint-Esprit sont connexes dans la charité. Les vertus sont toutes connexes dans la prudence. Sont les et les arts, pas de connexion. La seule unité des arts, c'est l'amour. Alors, là, c'est très intéressant à voir au point de vue de l'histoire de l'art.
c'est qu'au début, il y a quand même une espèce d'unité de connexion dans les arts. Alors, est-ce que c'est le christianisme qui, passant par là, a fait que, de fait, les arts se sont séparés des uns des autres? Il y a de même d'anarchie dans les arts. Il y a des connexions souterraines, c'est évident. Ordinairement, un artiste très poussé dans un sens aura quand même le sens de d'autres. Mais pas toujours. Pas toujours. Ça, c'est curieux. Il y aura des peintres qui n'ont aucun sens de la musique. Ça peut très bien arriver. Et puis, il y aura des musiciens qui n'ont pas le sens de la peinture. Ou de la sculpture. Mais il y a des liens entre la musique et la danse, par exemple. Normalement. C'est le rythme, vous voyez, qui vient faire la... qui vient donner quelque chose de particulier entre le point de vue de la danse et le point de vue de la musique. Mais autrement, alors il y a des arts qui sont plus ou moins proches les uns des autres. On ne peut pas dire qu'il y a un art qui fait la synthèse de tous les arts. Tandis que je peux dire que la danse et la charité sont des nœuds qui font la connexion ou de toutes les vertus pour la prudence ou des dons du Saint-Esprit pour la charité. On ne peut pas dire ça pour les arts. Et chercher, on pourrait dire, est-ce que la poésie n'est-il pas la synthèse de tous les arts? Non. La poésie a un primat très particulier en raison de la matière du poète. La poésie a quelque chose de particulièrement intelligent parce que justement, on travaille une matière humaine, le langage. Donc c'est particulièrement important. Mais je ne peux pas dire que la poésie fait la synthèse de tous. Il y a une espèce d'anarchie dans les arts. Ou anarchie, si vous voulez, une espèce d'autonomie, c'est plus juste de dire. Il y a une espèce d'autonomie dans les arts. Et quand vous poussez très fort un art, vous ne pouvez plus avoir la même chose du côté d'un autre art. C'est très curieux. Un peintre qui est farouchement peint, eh bien, il verra tout à travers sa peinture, ce qui agacera prodigieusement le musicien ou le poète. Un danseur ou une danseuse verra tout à travers sa danse. C'est curieux, ça. Alors, vous voyez, l'autonomie qui pompe le reste et qui fait que, de fait, à travers celui-là, on voudra voir tous les autres, tandis qu'on ne fera jamais ça du côté des vertus. Si je suis vraiment humble et que je suis vraiment très très spécialisé dans l'humilité, je ne vais pas voir toutes les autres vertus à la lumière de l'humilité. Non, non, pas du tout. C'est à la lumière de la prudence. C'est la même chose pour les choses de l'esprit. Tandis qu'il y a du côté artistique, c'est très curieux, il y a quelque chose de spécial que chaque art a une autonomie. Et parce qu'il a une autonomie, il aura la tentation de pomper un peu toute la sensibilité de chacun. C'est pour ça qu'ordinairement, on se spécialise dans un art. Et les grands artistes le comprennent très bien. Il y a une option qui se fait à un moment donné. On peut regarder un autre, mais il y a une option. Quelque chose qui fonce. Donc, c'est une question très importante. Vous voyez, de comprendre que les arts ne sont pas connexes. Vous comprenez que ça a une répercussion immédiate sur la question, est-ce que l'art me donne un type particulier de la personne humaine? Est-ce que le poète, comme poète, est une personne? On pourra traiter de ça sur la question, sur la session philosophique sur la personne. C'est une question très intéressante. Est-ce que le musicien donne un type particulier de personne humaine? Est-ce que le peintre, oui, c'est intéressant à voir. Il est bien évident que l'homme prudent, ça donne une personnalité particulière. Mais je ne veux pas dire que l'humilité donne une personnalité particulière. Oh, c'est un. Il a une personnalité extraordinaire, regardez comme il est humble. Non, je ne dirais jamais ça. Je dirais, son humilité est admirable, plus qu'imitable, elle est admirable, son humilité, mais ça ne me fait pas découvrir une personne particulière, non. Et alors c'est très intéressant de voir du côté artistique, étant donné l'autonomie de l'art, se demander si de fait on peut parler de la personnalité de l'artiste, on parlera d'une personnalité de l'artiste, mais est-ce qu'il y a une personne, philosophiquement parlant? Psychologiquement, c'est bien évident. On le sait très bien. Les grands artistes, ordinairement, hein, n'ont pas un très bon caractère. Ordinairement. S'ils sont très grands artistes, on leur pardonne. Mais s'ils sont des philistins, c'est beaucoup plus difficile de leur pardonner. Hein. Ils se croient des grands artistes. C'est vrai que les grands artistes, ordinairement, n'ont pas très bon caractère. Parce qu'il y a une irréductibilité entre l'art et la vie commune. Ça, c'est sûr. Il y a une irréductibilité beaucoup plus profonde entre l'art et la vie commune qu'entre la philosophie et la vie commune. Il n'y a pas d'irréductibilité entre la philosophie et la vie commune. Le philosophe saura relativiser la vie commune. Donc, il ne sera pas présent tout le temps. Tandis que l'artiste est terriblement vulnérable. Et la vie commune toujours l'écrase. Ça, c'est un fait. Et ça, parce que l'art a une autonomie. Oui, alors, ça pose des problèmes au point de vue profond. Ça, quand quelqu'un vous demande, une jeune fille qui veut épouser un artiste, elle a été séduite par l'artiste, alors on lui dit, faites attention, soyez séduite par son art, mais ce n'est pas une raison pour l'épouser. Parce que vous verrez que ce ne sera pas commode du tout. Ça, vous pouvez lui dire, sans connaître l'artiste, mais simplement si c'est un grand artiste. Ça, c'est un fait. Alors, vous me dites, alors les artistes doivent plus se marier. Ils doivent épouser des femmes extrêmement vertueuses. Parce que s'ils épousent des femmes qui sont très artistes elles-mêmes, je vous affirme qu'au bout d'un certain temps, vous aurez un poète, et puis il y aura de côté le sculpteur. Et ils comprendront qu'il vaut mieux chacun avoir leur atelier, premièrement, n'est-ce pas ? Et par le fait même, vivre chacun de leur côté, parce qu'il y a une autonomie. Ce sont des phénomènes extrêmement curieux, ça, et ça c'est intéressant à étudier au point de vue profond. Alors il y a une remarque encore que je crois très importante, on la verra à la session sur la personne, c'est de voir comment la personnalité de l'artiste, est plus proche du point de vue psychologique que le point de vue moral. Autrement dit, l'activité artistique est plus proche de l'étude du psychologue que le point de vue moral. Ça, c'est aussi très intéressant à voir. Si vous aimez mieux, le psychologue dit plus de choses de l'artiste que de l'homme moral. La mesure du psychologue, ce qu'est la psychologie, dira plus de choses de l'artiste que de l'homme moral. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que la psychologie se met du côté du conditionnement. Or, l'artiste, c'est la réalisation d'une œuvre. Donc le conditionnement est beaucoup plus manifeste chez l'artiste que chez l'homme vertueux. Un homme vertueux, il disparaît. Un artiste, il ne disparaît jamais. Même s'il a beaucoup d'humilité. Du reste merveilleux, un artiste qui a beaucoup d'humilité. C'est plutôt rare. Hein, c'est... Tout chez l'artiste pousse à la manifestation. Et tout chez l'homme humble pousse à disparaître. Et c'est la pivoine et la violette. L'artiste se montre, il se manifeste, n'importe quel homme. Il se manifeste, c'est très curieux de voir ça. Et vous le voyez tout de suite, dès que vous êtes un petit peu là, il y a ce voyant, c'est évident. On voit tout de suite, c'est un poète, c'est un peintre. Avant, ils prenaient des coiffures et des. Mais comme maintenant tout le monde se met à l'artiste, alors ça ne se voit plus. Mais avant, ça se mettait. Il y avait des époques où on reconnaissait tout de suite, hein, si on avait affaire à un artiste à cause de son chapeau, à cause de sa cravate. Alors ça se reconnaissait immédiatement. On voyait tout de suite qu'on avait affaire à un artiste. Aujourd'hui, non. Parce que les Philistins prennent les habits des artistes. Du temps d'Aristote, c'était les sophistes qui se remettaient du manteau du philosophe. Il n'y avait pas de manteau particulier, mais c'était justement là une manière métaphorique de parler. Alors aujourd'hui, tout le monde prend son petit air artistique, original, n'est-ce pas, jusque dans son vêtement, pour manifester une originalité. Ce serait très bien. Sans avoir en dessous l'art. Là, ça reste mondain, mais ça reste artificiel, mondain, ça se voit tout de suite. Mais c'est très vrai qu'un artiste a un plumage différent d'un autre. C'est curieux, c'est comme ça. Tandis que le philosophe, l'homme vertueux, ne cherchera pas ça. L'artiste cherchera, parce que c'est incarné. C'est plus fort que lui. Il ne faut pas lui demander de le supprimer. C'est impossible. C'est une seconde nature. Ça touche à sa personnalité. Donc, c'est beaucoup plus proche du point de vue psychologique. C'est ça qui est très curieux et intéressant à voir. Autrement dit, la psychologie dit plus de choses vraies par rapport à l'artiste que par rapport à l'homme vertueux. Alors, tout ça, c'est important, c'est intéressant. Ça fait partie, vous voyez, d'une philosophie qui étudie l'homme. Je ne peux pas, au point de vue philosophique, avoir une vraie philosophie si je n'étudie pas l'artiste. Impossible. Je ne peux pas avoir une vraie philosophie de l'homme si je n'étudie pas l'activité artistique. Parce que je ne peux pas discerner pleinement l'activité morale si je ne vois pas le petit jumeau. Et comme on disait l'autre jour, hein, le petit jumeau, de temps en temps, il sort la main en premier lieu, on lui met un petit ruban rouge. Hein. Alors ça, c'est l'art. Parce que l'art sort en premier lieu, avec un petit ruban rouge. Alors il sort en premier lieu. Et puis alors l'autre sort après, la morale, elle s'implante. Et puis l'artiste vient en dernier lieu. C'est très curieux ces choses-là. C'est comme ça qu'on a été éduqué. On n'a pas du tout reçu une éducation poétique. Tandis qu'on a eu soin de nous donner une éducation morale. Et puis alors si on est vraiment artiste, ça ressort après. Il y avait le petit ruban rouge qui montrait qui était sorti le premier. Oui. Parce que le langage est d'abord un langage symbolique chez l'homme. Chez un enfant, il y a un artiste. Avant qu'il y ait l'homme vertueux. Mais l'éducation est une éducation vertueuse. Depuis le XVIIe siècle et le XVIe siècle. Alors, l'artiste a été éteint. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, ça, par les dessins d'enfants. Vous savez bien cette constatation très simple, les dessins d'enfants sont merveilleux avant qu'ils aillent à l'école. Dans l'école maternelle, on respecte ça. Dès qu'ils vont à l'école, immédiatement leur dessin dégringole. Il y a une chute. C'est pas étonnant parce que le point de vue moral et le point de vue artistique sont en nous deux frères jumeaux. Ou deux sœurs jumelles. Activité morale, activité artistique. Alors, si on pousse énormément l'un, l'autre diminue. Si toute la sève va du côté moral, il y en aura beaucoup moins du côté artistique. Alors vous serez devant une communauté très vertueuse, mais ennuyeuse. Ce qui arrive très souvent, ça arrive très souvent, c'est que si au contraire, alors il faut avoir l'équilibre entre les deux. Si vous avez uniquement une communauté artistique, vous aurez une communauté intelligente, souvent, mais impossible à vivre. Et c'est impossible à vivre, ça ne se pourrait pas. Parce que l'un se couchera, je ne sais pas, mais il est inspiré à minuit, lui, comme vous. Alors, il faut respecter son rythme. Et donc, il faut qu'il écrive jusqu'à 2h du matin. Pendant ça, là, un autre ronge. ronflent, n'est-ce pas? Et mais comme ils sont, comme ils ronflent trop, on le réveille, tais-toi, voyez, il m'a inspiré. Les artistes ont des rythmes très différents, vous ne pouvez pas mettre des artistes dans le même rythme de vie. C'est impossible, une communauté d'artistes, c'est impossible. C'est invivable. Et une communauté d'impérants. Alors ce qu'il faut, c'est maintenir les deux. C'est les deux, et c'est ça la taille profonde de l'homme, ce qui est très difficile. Parce que pratiquement, il faut reconnaître que notre éducation est une éducation morale. Et on éduque très peu au point de vue artistique. On trouve que c'est du luxe. L'art, c'est du luxe. Mais non, c'est pas du luxe. C'est fondamentalement humain. Un homme qui n'aurait aucun sens de l'art, Aristote dirait, il est insensible. Et vous savez que c'est le pire des vices. Pour Aristote, c'est le pire des vices. Parce que c'est notre sensibilité qui ne s'éduque pas. Notre sensibilité ne s'éduque pas par le point de vue moral. Nos passions s'éduquent un peu au point de vue moral, mais très facilement, on tombe dans une certaine note stoïcienne où les passions sont brimées. L'insensibilité et nos sensations sont éduquées par l'art. C'est l'artiste qui apprend à regarder la sensibilité, les sensibles propres. Et donc il y a là quelque chose de très important au point de vue philosophique. On ne peut pas considérer que le point de vue de l'activité artistique est quelque chose de négligeable, du luxe. Et c'était très curieux, j'ai vu l'évolution à Fribourg. Hein, parce que quand j'ai commencé un cours de philosophie de l'art, ça n'avait pas de valeur, c'était du luxe. Ça ne valait rien pour les examens. Progressivement, les étudiants étant de connivence avec le professeur, on a fait admettre un examen.